Musique du monde. Laurence Alloa. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
Le label français Nos Formats 15 ans, un anniversaire qui s'est fêté cette année à Paris, à Londres, à Kinshasa. Son papa, Laurent Bizot, revient pour nous sur les idées sur lesquelles s'est bâti ce label hors normes qui héberge aussi bien la folk électronique de Mélissa Lavaux que le violoncelle de Vincent Segal ou bien des Français Kevola avec leur prolongement cubain de Saïd Del Monte. Laurent Bizot est notre invité et il assure la programmation de cette émission. Bienvenue à bord. Sangaré sur RFI avec le titre Kamelemba. On est avec Laurent Bizot. Laurent Bizot, c'est le patron du label Nos Formats qui a été créé il y a 15 ans. Ça fait maintenant plusieurs mois que le label fête son anniversaire. Alors un coup à Londres, un coup à Kinshasa. Laurent, sur quelle idée vous avez créé ce label? Je donne juste l'éclairage de qui vous êtes. Vous avez été juriste à Universal Jazz. Vous avez été aussi manager de Salif Keita, je pense à l'époque de Mofou, donc aux alentours de 2002. Qu'est-ce qui fait que vous créez ce label en dehors de Universal et sur quelle base?
Je pense que c'était juste un moment où il y a des caps un peu dans la vie. Et la trentaine, pour moi, c'était... J'avais passé 8 ans chez Universal à apprendre des choses sur les artistes, les contrats, comment fonctionne une maison de disques. Et je sentais que c'est un peu comme un appel. C'est-à-dire tu sens que tu prévisualises un peu une façon de faire qui est différente de ce que tu as vu, mais qui s'inspire de ce que tu as appris. Et j'ai senti que c'était le moment d'essayer.
Qui était votre mentor à Universal Jazz?
Daniel Richard, personne qui est toujours très importante pour moi, qui est la génération d'au-dessus, qui était disquaire. Il a une science de la musique absolue, et notamment du jazz, mais pas que du jazz. Et il a une approche de la vie qui est une énorme source d'inspiration pour moi.
Alors, récupérer, je ne sais pas si c'est le bon verbe, récupérer Oumou Sangaré dans le catalogue, c'est ce qu'on appelle quand même une belle prise. Oumou Sangaré, une des plus belles voix du Ouassoulou et du Mali. C'est une femme d'affaires, c'est une femme dont la voix véhicule certaines idées, porte certains messages, notamment sur les droits des femmes. La rencontre avec Oumou Sangaré se passe comment pour un Laurent Bizot ?
Je vais être très terre à terre, c'est un email de son manager qui m'explique en gros qu'ils sont sur un nouvel album, qu'ils se dirigent vers une séparation à l'amiable avec World Circuit, qui était son label pendant 25 ans.
Qui a été racheté par BMG Londres maintenant.
Voilà, oui. Nick Gold, donc, que je connais un petit peu. Donc j'étais d'abord surpris de savoir ça, parce que pour moi, c'était une relation qui durerait toute une carrière. Donc il me demande tout simplement si on est intéressé pour distribuer son prochain album. Et il m'envoie l'album, et là je suis un peu pris entre deux, parce que énorme responsabilité, honneur de pouvoir travailler avec elle, et en même temps il y avait des choses dans l'album qui me plaisaient pas, donc je lui ai dit simplement je fais, mais à condition de pouvoir retravailler sur la production. Et là il y a eu une confiance aveugle presque de Oumou et de son manager en disant eh ben vas-y, nous on est ok. Et donc du coup on a retravaillé 6 mois sur l'album. Et on a pu sortir un album dont on est 100% non seulement satisfait, mais fier.
Est-ce que vous êtes copain avec les chiffres, Laurent Bizot ? Combien d'albums ?
Alors,
j'ai des chiffres sous les yeux, mais ils sont peut-être pas bons.
Je dirais 45, 46. On est entre 45 et 50.
Alors, sur Wikipédia, vous êtes à 44 avec Blik Bassi 1958, mais il y a peut-être d'autres albums qui sont sortis depuis. Je vous propose des...
Non, le prochain, c'est Lucas Santana, mais c'est dans 15 jours, donc on est toujours à ce chiffre-là.
Alors, Lucas Santana, très bonne idée.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blan. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi meu primeiro amor.
Lucas Santana, c'est le prochain album que sortira Nos Formats qui fête ses 15 ans depuis quelques mois. Lucas Santana est un artiste brésilien qui est originaire de Salvador de Bahia. C'est le neveu de Tom Zé, je dis ça pour les amateurs de musique, parce que Tom Zé représente aussi toute une histoire du Brésil. C'est un album particulier parce que l'album qui est produit sous Bolsonaro. Et je voulais savoir quel avait été votre regard sur ce disque, parce que Nos Formats a quand même une règle de base, c'est de fonctionner au coup de cœur. Vous, c'est, les carrières des artistes, c'est pas votre truc, c'est d'être là au moment d'une rencontre, de quelque chose de nouveau. Vous ne travaillez pas sur la carrière d'un artiste, vous travaillez sur un moment.
En général, oui, il y a une exception dont je te parlerai après. En général, ma vision des choses, ce que j'essaie de faire, c'est j'imagine quelqu'un qui tomberait sur la collection des disques Nos Formats dans 10 ans et qui tomberait là-dessus comme on tombe sur un coffre dans un grenier et qui trouverait plein de petits trésors musicaux. Donc je pense que la responsabilité de suivre une carrière d'un artiste sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans, elle est trop lourde pour mes épaules. Et ce que je préfère faire, c'est d'essayer de créer les conditions de création ou de découverte. Je dis création-découverte parce que parfois je suis très très en amont dans la création d'un projet. Parfois on arrive alors que c'est fini. C'est le cas de l'album de Lucas. Lucas a été silencieux pendant des mois et il m'a écrit un jour en disant « Voilà mon album, il sort au Brésil parce que j'ai de quoi le sortir. Si tu veux le sortir ailleurs, je suis partant. » Et donc j'ai découvert l'album fini.
Donc vous n'êtes pas intervenu sur celui-là, ce qui est assez rare.
Pas du tout.
Chez vous.
C'est assez rare, mais c'est arrivé plusieurs fois. À partir du moment où ça se passe comme ça, là c'est vraiment le coup de cœur qui agit. C'est-à-dire que je suis dans la position d'un auditeur et soit j'ai des fourmis partout dans le ventre en l'écoutant et je suis remué et je dis oui tout de suite et ça va très vite et ça se fait très simplement. Soit je le sens pas et là... Eh ben, c'est la partie un petit peu plus compliquée parfois du métier, c'est-à-dire qu'on a parfois des relations très fortes et très chaleureuses avec des artistes, mais il se peut que j'ai pas le coup de cœur sur un album, et là je préfère ne pas me mentir et ne pas lui mentir, et je préfère dire cet album on le sortira pas parce que ça correspond pas à ce que j'ai envie de montrer aux gens, voilà. Mais...
Qu'est-ce qui vous a plu sur ce nouvel album de Lucas Santana qui viendra prochainement dans la session live sur RFI, dans les musiques du monde, qui s'appelle Meu Primeiro Amor, ce qu'on vient d'écouter?
D'abord, je trouve que l'exercice d'un album guitare-voix, c'est un exercice pas facile, et que quand sur 10, 11 chansons, tu es constamment trimballé, guidé par les harmonies, les mélodies, enfin que tu t'ennuies jamais et que tu as l'impression en plus que chaque chanson que tu entends, tu la connais déjà inconsciemment et elle résonne en toi. Voilà, pour moi c'est un album où il y a 10 ou 11, je sais même plus, magnifiques chansons dans le sens des chansons qui vont rester, quoi, qui sont
déjà des classiques.
Ouais, et c'est quand même le plus difficile à faire.
Vous vous souvenez du premier album que vous avez sorti il y a 15 ans chez Nos Formats ?
C'était une triplette d'albums.
Le Dogme des 6 jours.
Le Dogme des 6 jours, Swing Swing et Toto Bonaloco.
Ouais.
Le même jour.
Le Dogme des 6 jours, une étrangeté parmi les étrangetés. Ça vient de votre passé Universal Jazz, c'est ça ?
Exactement, tu ne crois pas si bien dire, parce que c'était un album qui avait été enregistré avant que je crée le label et qui était dans les tiroirs de l'équipe d'Universal Jazz parce que le pari artistique était un peu fou, mais la difficulté pour eux, c'était de dire comment on va commercialiser ce disque. Parce que c'était un collectif d'artistes, de musiciens qui ne se connaissaient pas et qui avaient décidé de se retrouver 6 jours dans une maison, je ne sais plus où, dans la Creuse, je ne sais plus exactement où, mais qui avaient fait le pari de créer ex nihilo un album en 6 jours, écrit, enregistré, mixé, sans avoir collaboré avant, quoi. Donc le pari était super attrayant et l'album est magnifique, mais il y avait un souci de comment on va mettre ça sur le marché. Il n'y a pas de groupe, ils vont pas tourner, ça existe. Donc
faites tout ce que vous aimez, quoi.
Moi, ce qui m'a plu, c'est le côté ok, mais en fait la musique elle est là, elle est touchante, elle est belle. Donc le pari de Nos Formats, c'était trouver une façon de faire, un outil qui serait, à partir du moment où la musique est là, elle doit être accessible d'une façon ou d'une autre au public parce qu'elle le mérite, parce que les gens doivent écouter ça. Donc, mon boulot, c'est de faire en sorte que oui, même si c'est difficile de mettre tel ou tel disque sur le marché, on va le faire quand même et on va trouver des façons de contrecarrer cette difficulté.
Il y a des réguliers quand même hein, chez nos formats, il y a des noms qui reviennent, vous avez évoqué Nicolas Repac, Gérald Toto, Richard Bonnat, Pascal Lecoq-Hanza, il y a aussi Blik Bassi. Bassi avec le titre Ngwa, c'est un extrait de l'album 1958 qui est une des dernières sorties du label No Format qui, je le rappelle, fête ses 15 ans. Laurent Bizot, son créateur, est notre invité. Vous avez créé des manières de faire qui sont assez intéressantes dans votre label. Vous avez créé ce qu'on appelle le Pass No Format, c'est-à-dire que vous permettez aux gens d'investir. C'est un peu du Kiss Kiss Bang Bang, mais plus intéressant, plus culturel. On peut avoir accès évidemment à toute votre production, mais on peut avoir aussi accès à des concerts privés arrivée. Vous avez consommé les AMAP, vous savez, ces paniers avec des légumes, là on paye avant, et puis après on a des carottes, des navets, on choisit pas. On vous donne ce qu'il y a, mais vous payez à l'avance. C'est l'idée.
C'est exactement ça qui m'a. C'est une des choses qui m'a inspiré pour cette idée du pass.
Ouais.
Les deux choses qui m'ont inspiré, c'est de me dire. La première chose, c'était de me dire bon, le métier change, le CD est remplacé petit à petit par Internet. Les gens n'achètent plus forcément, enfin pas tous, des albums. Ils veulent un accès à la musique un peu illimité. C'est-à-dire, ils s'abonnent à des services de streaming pour écouter toute la musique disponible. Donc, comment inventer un système qui crée un accès entre eux et nous, entre eux et les artistes du label, en étant plus spécifique qu'on est noyé dans une masse de Spotify, mais en étant un petit accès privilégié. Et l'exemple des AMAP, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, la personne qui va payer ses légumes bio sait que ça va au producteur. Lui ne se soucie plus de les vendre, d'avoir tous les aléas de comment je les commercialise mes légumes, mais il a déjà la recette de sa production. Après, il n'a plus qu'à se concentrer sur bien produire des beaux légumes qui satisfassent les gens, parce que sinon ils peuvent arrêter. Donc c'est un espèce de truc où tout le monde y gagne, quoi. Et je me suis dit, bah c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est proposer aux gens une année de récolte artistique. Les gens, ils payent d'avance, comme ça la responsabilité elle est sur nous, la pression elle est sur nous de leur donner des belles choses. Et à bout d'un an, soit ils ont eu des émotions musicales réelles et ils se disent bon, banco, on replonge, soit ils ont été déçus et puis ils arrêtent. Mais je trouvais ça plus profond que juste, tiens, j'achète un album et puis j'en achète un autre.
Quand on dirige un label, comment on fonctionne avec deux personnalités comme Balaké Sissoko et Vincent Segal, qui respectivement est un joueur de kora malien, et Vincent Segal un violoncelliste français? C'est un duo particulier. Comment vous intervenez? Parce que là, vous avez deux personnalités.
En un sens, c'est assez facile, parce que il faut surtout pas forcer les choses, il faut surtout pas essayer de l'emmener sur des choses qu'il a pas envie de faire. Mais ces deux artistes là ils sont tellement inspirés et inspirants, ils ont tellement si tu veux une vision claire de leur art, de ce qu'ils veulent donner, que en fait c'est très simple, faut juste les écouter. Après, je peux décider de les suivre ou de pas les suivre, mais je vais pas les emmener sur quelque chose qui est pas leur terrain, quoi. Je vais juste écouter, être le plus disponible possible pour comprendre ce qu'ils veulent faire sur un projet. Et là encore, on raisonne projet par projet, sans s'engager forcément sur 18 albums avec eux. Mais à chaque nouveau projet, on se parle, on voit de quoi on a envie, eux me disent de quoi ils ont envie, moi ça résonne en moi ou pas.
Oui.
Et si ça résonne en moi, je mets toute mon énergie, tous mes moyens, toute ma trésorerie pour aider le projet à éclore avec le plus d'apparat, parce qu'il faut entourer un petit peu cette musique de visuel, je crée l'écrin autour de la chose. Et puis si ça me parle pas, je leur donne rendez-vous au prochain.
Vous avez sorti deux albums, Musique de Nuit et Chamber, ouais. Music. Il y a un troisième en préparation, c'est en vue ou pour l'instant c'est pas du tout d'actualité?
Il y a une ou deux idées, dont une de collaboration avec d'autres artistes qui pourraient être un très bel album. C'est en discussion. C'est trop tôt pour parler d'un troisième album là tout de suite, mais on réfléchit à ce qu'on peut faire sans se répéter aussi, parce que il y a une autre chose qui est importante, c'est que parfois c'est des projets uniques, parfois avec certains artistes on se lance dans un deuxième ou un troisième, mais j'ai vraiment à cœur de pas faire de redite. Et je pense que pour les artistes aussi c'est important, même s'ils doivent eux creuser un sillon et une relation avec leurs auditeurs, mais c'est important de se réinventer aussi un petit peu à chaque album et de proposer quelque chose de neuf. Et
en quelle année est sorti Chamber Music, Musique de Chambre?
Alors 2009.
2009. Quand je pense à eux, je relis cette phrase d'une interview que Lucas Santana a accordée à FIP, qui disait que politiquement, il est brésilien, puisque nous sommes dans une époque où tout le monde crie très fort, où personne ne veut écouter l'autre, j'ai pensé que c'était le moment de parler tout bas aux oreilles des gens. C'est exactement ce que font et Vincent Segal et Balaké Sissoko.
Thank you.
Balaké Sissoko et Vincent Segal, Chamber Music, musique de chambre. On discutait hors antenne avec Laurent Bizot, qui est le patron de nos formats, en fait, les 15 ans du label dans cette émission, que s'il y avait peut-être un mot, non pas pour définir la ligne éditoriale, mais pour être peut-être un sous-titre de nos formats, ce serait musique de nuit. Vous pensez que tous les gens que vous avez sortis, enfin, c'est une quarantaine d'albums, ce sont des musiques qui se chuchotent, ce sont des musiques à écouter dans une voiture quand il y a beaucoup de circulation pour apaiser les esprits?
En tout cas, je pense que c'est souvent des albums qui demandent une certaine disponibilité. Si je peux tous les regrouper, parce que c'est vraiment des histoires complètement différentes chaque album, mais il y a ce point commun peut-être de... C'est des albums que tu apprécies d'autant plus que tu t'immerges dedans, que tu rentres à l'intérieur de ces voyages, et c'est pas forcément un album que tu vas mettre... quand tu reçois des amis pour un apéro et que tu as envie d'être léger et festif et de mettre de l'ambiance, c'est plus des albums...
De chevet.
C'est des albums de chevet, ouais. C'est des albums... c'est des trips, en fait. C'est des voyages. Enfin, c'est ce que souvent, c'est comme ça que j'ai vu les albums qu'on a sortis.
Vous avez remarqué aussi que sur la plupart des albums de nos formats, les batteries, les percussions ne sont pas tellement invitées. Vous aimez les voix et les cordes, vous.
C'est vrai. J'avoue que j'ai un faible pour les voix. Il y a des voix qui me bouleversent. Souvent des voix qui sont pas totalement conformes ou des voix assez atypiques, des voix avec du grain, avec du vécu, avec des voix cassées ou des voix voix cassées. Je pense à Mélissa Lavaux, des voix comme Alani ou tu vas avoir l'impression d'entendre une chanteuse des années 20 ou 30. Une façon de chanter qui n'existe plus aujourd'hui.
C'est son âge, elle a 20 ou 30 ans.
Des voix atypiques, mais qui ont une telle force émotionnelle que ça te transporte. C'est vrai que j'aime bien les cordes aussi. Mais par exemple, Kevola, qui est un album assez récent, qui est une espèce de rencontre de jazzmen français avec des percussions cubaines. Les percussions sont au cœur aussi de l'album. Donc il n'y a pas de règle absolue, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont noctambules.
Fidel Fourneyron, le tromboniste, je crois, s'est fait remarquer aux Victoires du Jazz cette année.
Ouais,
artiste émergent.
Exactement.
Nouvelle tête, ouais. C'est bien pour
l'artiste
vous aussi.
L'artiste
qui monte. Vous évoquiez Mélissa Lavaux pour son grain de voix. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec elle? Comment ça s'est passé? Et pourquoi elle vous a plu? Et pourquoi
Alors,
elle vous a choisi?
Je me souviens très bien.
Ouais.
On était, je crois, le label avait 2 ans, 3 ans maximum. Peut-être on était en 2005, 2006. On écoute sur MySpace à l'époque la page d'un artiste qui s'appelle Spleen. Et dans la page des artistes, il y avait une espèce de top 5 des choses que l'artiste aimait. Et en 4e ou en 5e, on tombe sur une chanson de Mélissa Lavaux qui s'appelait Les Cendres, qui était issue de sa première maquette qu'elle avait fait toute seule. Et là, Thibaut et moi, on s'est regardé dans le bureau, au bout de 2 phrases, et on a dit, mais c'est qui cette voix? On a remis le morceau, et on a coup de cœur instantané. On lui a écrit sur MySpace. Pendant 3 semaines, elle nous a pas répondu, parce qu'après, elle nous a dit qu'elle pensait que c'était une blague ou que c'était pas sérieux. On lui a dit, on est un label à Paris, qui tu es, quels sont tes projets, est-ce que t'es déjà engagé, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut se parler. Et puis, elle a fini par nous répondre, et en disant qu'elle avait autoproduit ses maquettes, et qu'elle faisait toute seule avec un ami percussionniste, et que elle faisait encore ses études, mais qu'elle était ouverte à une collaboration. Et j'allais ensuite avec Salif à Montréal.
Salif Keïta,
pour une tournée. Et Mélissa jouait...
Vous avez aidé son manager.
Ouais, j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans comme manager. Oui. Et Mélissa jouait au Balatou.
Ah oui, à Montréal.
Ouais.
C'est le lieu de Nuit d'Afrique et de notre ami Monsieur Touré.
Ouais, c'est ça.
Qui a été remarqué. Bah oui, ça fait Festival Nuit d'Afrique depuis plus de 30 ans.
L'Africain de l'Ouest, je ne sais pas si malien ou
guinéen. Guinéen.
Et
Lamine Touré, voilà.
Et donc ma première rencontre avec Mélissa, c'était Mélissa qui était sur scène toute seule avec sa guitare. Et je pense qu'on était 3 dans le club. Donc j'ai écouté les chansons que j'avais entendues, parce qu'entre temps elle m'avait envoyé l'album entier de sa maquette. Et j'ai écouté ses chansons en live. Je lui ai dit, écoute, Alors elle était très timide, très maladroite. Tu sentais que c'était vraiment ses premières fois qu'elle jouait en public. Et moi, je lui ai dit, je sens qu'il y a une route à faire parce que ta musique est très originale. Elle chantait à l'époque en français, ce qu'elle fait moins, en anglais et en créole. Elle avait ce jeu de guitare qui était très rythmique, très riff, quoi, assez peu harmonique, très rythmique. Et puis son phrasé, son flow... Il y avait un côté presque rap dans la façon dont elle... Je sais pas, moi je sais que j'étais séduit et conquis par le côté unique. Je me disais, mais il y a aucune artiste qui ressemble à ça. Et en même temps, ça me touche. Et donc je lui ai dit, je pense aussi, sans vouloir faire des rapprochements faciles, mais je pense que la France, où on a... Parce qu'elle me disait, j'ai un peu de mal à avoir accès au festival et tout ça, je suis une femme noire, la scène indé canadienne, c'est plus...
Oui, elle est canadienne d'origine haïtienne.
Voilà.
Oui,
et à l'époque, la scène indé, c'était Feist, etc. C'était une scène plus blanche, je pense. Elle avait un peu de mal avec ça. Et je lui ai dit, écoute... Je veux pas te vendre du rêve, mais je pense qu'à Paris, si je pense à Ben Harper, si je pense à Kezia Jones, etc., si je pense même avant, à l'époque du jazz, j'ai l'impression que ta musique pourrait être entendue et que tu pourrais te développer là. Et en fait, j'ai fait ce que j'ai jamais fait sur aucun autre projet, c'est-à-dire que je lui ai dit, à mon avis, ce qui serait intéressant, c'est de s'entendre sur 3 albums. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'idée, c'était pas de faire un projet avec elle, mais c'était de dire, on va grandir ensemble. Nous, on a 2-3 ans d'existence, hein, on est encore tout neuf. Et toi, tu commences aussi. Mais le songwriting, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup de littérature, de mythologie, qui connaissait beaucoup d'histoires, enfin, qui avait des inspirations claires. Et pour moi, elle avait juste besoin de polisser, de peaufiner son art petit à petit. Pour arriver à maturité. Et donc, j'étais à peu près sûr qu'il faudrait du temps pour ça.
Alors, vous avez choisi un extrait du 2e album, je crois, Dying is a Wild Night, et le titre que vous avez choisi, c'est Postman. Vous avez effectivement fait 3 albums ensemble, Ken, Four and Copper, Le Camphre et le Cuivre, Dying is a Wild Night, qu'on évoquait à l'instant, et puis le dernier, Radio Sewell, qui est en créole. Postman sur RFI. Love is this. C'était Mélissa Lavaux avec le titre Postman. Mélissa Lavaux est l'une des rares artistes que vous suivez depuis le début, Laurent Bizeau, avec le label No Format. On fête les 15 ans, c'est pour ça que vous êtes dans cette émission. Je l'ai vue en vidéo, une vidéo qui a été faite à Kinshasa au mois de juin cette année. C'était pendant le festival de jazz, Jazz Kiff. Il y a trois personnes qui sont sur ce film. Il y a Mélissa Lavaux, il y a Gérald Toto et je crois qu'il y a toute la bande de Kevola avec Fidel Fourneron.
Exactement.
Et Hossein Del Monte qui sont dans le paysage. Combien de fois vous avez fêté les 15 ans de nos formats cette année? C'est bien.
Écoute, les autres fois ou les autres anniversaires, on avait toujours fait des choses à Paris. Et puis l'année dernière, je me suis dit, bon, j'hésitais entre pas faire d'anniversaire. Et puis je me dis, mais si on fait un truc, ça serait bien de se mettre un petit peu en dehors de la zone de confort, des amis qu'on a à Paris, etc. Et puis d'aller montrer ailleurs nos artistes qu'on fait. Et j'ai commencé à imaginer comme ça un espèce de, pas un tour du monde, mais un petit truc itinérant où on serait en Afrique, parce que on pense toujours New York, machin, mais on pense pas forcément aller jouer sur le continent, en Amérique, en Europe, Londres, parce que pour moi c'est une ville très importante musicalement. Donc voilà, je me suis dit essayons d'aller voir ailleurs si on y est, et puis de montrer que même si on est un petit label en nombre de personnes et en taille, on n'a pas peur d'aller se frotter à d'autres pays, à d'autres cultures, aller dans des endroits où c'est pas facile forcément de monter un événement à New York. Pourquoi ne pas se laisser freiner par la difficulté.
Alors, il y a, dans ce film qui a été tourné à Kinshasa en juin de cette année, on balade un peu les musiciens. Mélissa Lavaux va à une expo d'art contemporain. Alors, elle voit déjà une sculpture de mémoire. Je crois qu'il y a des cartouches de fusil qui composent cette sculpture. Puis, à un moment, sur un mur, il y a une carte de la République démocratique du Congo avec des étuis de téléphones portables ou des vieux téléphones portables déglingués. Elle se demande un peu ce que c'est. Alors, il y a un mec qui lui dit « Oh, ça doit être notre problème de communication. » J'imagine. Et puis à un moment, l'artiste qui a fait ce tableau arrive, dit non, c'est vos téléphones portables, nos téléphones portables, c'est le coltan. Vous voyez là, le kivu, là, les téléphones portables sont rouges. On meurt beaucoup là-haut. Et donc Mélissa est restée un peu interdite. Et quelqu'un a parlé de Kinshasa en disant Kinshasa la plus belle ou Kinshasa la poubelle. Et Mélissa répond « Je ne suis pas là depuis suffisamment longtemps pour me permettre d'émettre le moindre jugement. » Elle est toujours sur la réserve, elle fait très attention à ce qu'elle dit. Et donc vous montrez des artistes dans des situations qui n'ont pas l'habitude de vivre. C'est très joli. J'ai vraiment le sentiment que vous aimez beaucoup vos artistes en fait. Non, parce que ce n'est pas le cas de tous les labels. Il y a des labels où on fait de l'argent. Voilà. Vous, c'est particulier.
Je sais pas trop comment répondre à ça, mais...
En fait, c'était pas une question.
Ouais.
C'est pour ça que vous pouvez pas répondre.
C'est sûr qu'il y a rien qui ne me rend plus heureux que de voir leurs projets s'épanouir, de les voir, eux, grandir et délivrer le message. Je crois foncièrement que les artistes ont une importance capitale dans notre société. Je crois foncièrement qu'on a besoin de rêves pour illuminer nos imaginaires et changer le monde. Et je crois forcément que mon rôle, c'est de leur permettre d'effectuer cette tâche.
Héberger de belles images ou de beaux sons pour imaginer autre chose, tout à fait. J'ai appris que vous viviez en Afrique du Sud depuis un peu plus d'un an. Vous signez un groupe sud-africain qui s'appelle Urban Village. Si je vous demande le style de musique d'Urban Village, on va se retrouver encore un peu dans la panade.
C'est difficile comme question. Ils viennent de Soweto, ouais,
Southwest Town.
Voilà.
Le ghetto.
C'est des musiciens fascinants dans leur musique et dans leur façon d'être dans leur temps, mais en même temps d'assumer et de revendiquer, d'aller chercher dans les différentes cultures africaines des inspirations fortes. Urban Village, le nom même est choisi pour dire, bon, le monde d'aujourd'hui, c'est très urbain. Johannesburg, c'est une ville qui a été créée ex nihilo pour des mines. Donc c'est des gens qui sont venus de tout le pays sur une ville qui n'existait pas pour exploiter des mines. Ils ont emmené avec eux le patrimoine du village. Mais la société moderne, c'est aussi le risque de perdre ça, de s'urbaniser et de perdre toute la culture du village. Et évidemment, la spiritualité en premier. Eux, leur appel, ils le vivent vraiment comme une mission, c'est d'être dans la société d'aujourd'hui, mais de transmettre les valeurs et les cultures du village.
Est-ce qu'ils vous ont emmené chez eux? Est-ce que vous avez pu mettre les pieds à Soweto?
Oui, à Soweto, j'ai été les voir répéter. On a fait plusieurs rendez-vous là-bas. Je connais pas leur maison familiale, mais
vous n'avez pas pu rentrer encore.
Ça s'est pas fait, mais ça va se faire. Ils sont très très accueillants, très très. En Afrique du Sud, j'étais vraiment frappé par la bienveillance des gens, leur chaleur, leur accueil. Il y a une attention à l'humain. Tu sais, on parle souvent d'Ubuntu, qui veut dire, je crois que c'est en zoulou, l'humanité. Mais c'est pas un vain mot là-bas. C'est-à-dire que moi, je me sens très en résonance avec eux et je suis très heureux de les connaître et d'aider à faire connaître leur musique.
Laurent Bizot, il y a 15 ans, vous avez créé le label No Format. Aujourd'hui, vous vivez en Afrique du Sud. Vous avez fait la programmation de cette émission. Vous avez choisi Nicolas Repas, qui est quand même un de vos premiers artistes dans cette aventure. Nicolas Repas, avec le titre Revue Noire. Parlez-moi de Nicolas Repas, celui que vous aimez, celui que vous connaissez, celui avec qui vous travaillez, vous collaborez très souvent.
C'est un animal de studio, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime rien plus dans la vie que d'être plongé dans son ordinateur. Et ce qui est complètement, pour moi, paradoxal, c'est qu'avec un ordinateur et des sources de son, que ce soit des vinyles ou des CD qui dénichent à droite à gauche, il arrive à te faire voyager dans l'espace et dans le temps. Je connais peu de gens qui, avec une économie de moyens comme ça, arrivent à te faire voyager aussi loin, quoi. Il joue en live dans des groupes, il joue avec Arthur H, il a son groupe, mais moi, pour moi, l'image que j'ai de lui, c'est lui, son ordinateur, son petit joint et il fait de la magie. Pour moi, c'est un magicien. Voilà.
Bon anniversaire, Laurent.
Merci, Laurence.
À bientôt.